بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Pendant ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans les conditions favorables pour faire notre purification intérieure, notre réformation intérieure. Allah subhanahu wa ta'ala a enchaîné notre nafs par le jeûne et les shayatines également ont été enchaînées durant ce mois de Ramadan. Ces deux contraintes sont les contraintes principales qui constituent des obstacles dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ces deux contraintes sont neutralisées. Le nafs par le jeûne, les désirs, les passions sont neutralisés par le jeûne. Et ce facteur extérieur qui est shaitan, il est également enchaîné. Et on se trouve donc dans les situations les plus favorables pour faire notre correction intérieure. En particulier, le thème qu'on était en train de développer, qui est la colère, cette qualité, cet état qu'est la colère, eh bien, devrait faire l'objet de toute notre attention. Et on devrait profiter de ce mois de Ramadan pour travailler sur ce point essentiel. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala dans les hadiths et dans le Coran, ont à maintes reprises montré, indiqué l'importance de soigner cette maladie spirituelle. Une fois, un sahabi est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il demanda Iz ou Aujiz, envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, conseille-moi et sois bref. Conseille-moi et sois bref. C'était un sahabi qui certainement était un peu pressé. Il avait besoin de conseils, mais il n'avait pas beaucoup de temps. Et donc il a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un conseil et sois le plus bref possible. Ça aussi, c'est un adab que les savants nous enseignent à partir de ce hadith. C'est que lorsque quelqu'un vient nous voir et qu'il dispose de peu de temps ou d'un temps bien déterminé, limité, eh bien, on doit respecter sa demande. Parce que cette personne a un besoin qui doit être satisfait, mais également le temps de cette personne est peut-être sollicité ailleurs, dans d'autres choses, eh bien, il faut répondre à sa demande selon ses disponibilités. Et donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans son éloquence extraordinaire et dans sa sagesse unique, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond à ce sahabi et lui dit, on va dire deux mots, pour ne pas dire un seul mot, la tardob. Ne te mets pas en colère. C'est le seul conseil que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui donne. Alors que la question était très générale, conseille-moi. Eh bien, la réponse aurait pu être également sous différentes formes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire, ne fais pas tel péché, ne fais pas le zina, ne fais pas le vol, ne commets pas, ne fais pas l'adultère. Ne dis pas de mensonges ou de ribat, de médisance, etc. Rasulullah sallam aurait pu lui dire également quelques conseils, quelques phrases en réponse. Mais là, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit un seul mot, la tardab, un seul conseil. La tardab, ne te mets pas en colère. Et cela nous montre que la colère elle-même, si elle est soignée, eh bien beaucoup de maladies, beaucoup de péchés également, serait effacé par le traitement de la colère. Rasulallah, en quelques mots, il a dit, il a donné un conseil qui sera bénéfique sur beaucoup de plans, et un conseil qui sera bénéfique à ce sahabi et qui sera suffisant, inshallah, pour la correction de ce sahabi. On avait parlé au début des différents types de colère. Et on avait déterminé trois types, trois catégories de colère. La colère qui est interdite, qui est incontrôlée. Et il y a également un type de colère, c'est la colère qui est nécessaire, qui est zaruri, qui est nécessaire. Alors ce type de colère, c'est cet état intérieur qui va nous amener à nous défendre. C'est une colère qui est nécessaire à notre survie, pour préserver notre vie. Pour comprendre cet état de colère, on peut donner l'exemple d'une personne qui, par exemple, est en train de s'allonger dans sa maison, de se reposer, et puis il y a un petit voyou qui rentre dans sa maison pour voler ses affaires, ses biens. Qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va regarder le voyou. Il lui dire, allez, vas-y, serre-toi. Et lorsque tu as fini, n'oublie pas de fermer la porte lorsque tu pars. Non, la personne va se, par un élan de colère, va se défendre, va faire fuir ce voyou, va l'empêcher de voler ses affaires. Eh bien, cette colère-là qui fait réagir cette personne, eh bien, ça, c'est une colère qui est nécessaire pour assurer sa protection. De même, si on a deux belligérants, deux ennemis qui se font face, et qu'il n'y a pas cette dose de colère pour que ces personnes s'affrontent et se défendent pour leur survie, eh bien, ce sera la race humaine qui va disparaître. Ces personnes, si elles s'asseyent et se disent, allez, on va s'asseoir, on va parler autour d'une tasse de thé, on va discuter, eh bien, c'est sûr qu'à un moment donné, la personne va se faire éliminer. Donc on a besoin de ce niveau minimum de colère qui est nécessaire et qui permet la survie, la pérennité de l'être, de l'individu. Ensuite, on a une troisième catégorie de colère, c'est la colère qui est mubah, qui est autorisée. Cette colère qui est autorisée, c'est la colère qui est surtout destiné à la préservation du dîn et à l'application du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une colère qui fait exception. Par exemple, il arrivait parfois à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de se mettre en colère, à tel point qu'il est mentionné dans les narrations que anna rumana usira ala wajhihi sallallahu alayhi wa sallam. C'était comme si qu'on avait versé du jus de grenade sur le visage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tellement il devenait rouge de colère. Mais c'était toujours, toujours pour une raison qui était en relation avec le dîn d'Allah, avec l'application des ordres d'Allah, le respect des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère pour des choses mondaines. Jamais. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'il se mettait parfois en colère, c'était uniquement en raison du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ordres d'Allah n'étaient pas respectés ou n'étaient pas appliqués. Mais là aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la plupart du temps, eh bien, sa réaction, son attitude, c'était la tolérance, c'était de faire maaf, de pardonner. Mais il arrivait aussi à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de se mettre en colère. Et ce type de colère qu'on pourrait exprimer, par exemple, dans l'éducation de quelqu'un, l'éducation dhini, religieuse de quelqu'un, ce type de colère serait toléré, mubah, autorisé. Cependant, les savants nous disent qu'il y a deux points quand même à retenir ici. C'est que, premièrement, cette colère, eh bien, même si elle est tolérée, La meilleure des façons de réagir dans cette situation, ce qui est afdal, ce qui est préféré, c'est le pardon. Il y a ce qui est autorisé, mubah, et puis il y a ce qui est afdal, ce qui est meilleur. Ça, c'est le niveau de l'excellence. D'essayer toujours de pardonner, de tolérer. L'attitude la plus adaptée, c'est bien ce pardon. Et puis les savants nous disent également que lorsqu'on est dans un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on est un salik, on est quelqu'un qui est en train de faire ce travail intérieur pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ibtida'an, dans cette étape de débutant, il nous est conseillé de, même dans ces situations, de ne pas exprimer cette colère autorisée, mubah. Parce que il est fort possible que dans ce cheminement où on est encore novice, débutant, on n'arrive pas à faire vraiment la distinction entre cette colère qui est de droit et cette colère qui n'est pas de droit. Et c'est pour cela que lorsque les disciples se retournent vers leur maître spirituel, eh bien, dans tous les cas, on leur demande de dompter leur colère, subjuguer leur colère, même si c'est des situations qui sont autorisées. C'est ce qu'on appelle le mujahada, l'effort sur soi-même. L'effort sur soi-même, ou même lorsqu'on a la possibilité de faire quelque chose qui est autorisé, mais pour fermer toute porte de fitna, toute porte de mal, de dérapage, eh bien, même ces choses qui sont moubah, qui sont autorisées, on s'en abstient. C'est ce qu'on appelle le mujahada. C'est un effort, une étape intermédiaire pour travailler sur son intérieur. Mawlana Yaqub Nanoutoui, rahmatullahi alayh, il donne un exemple en matière de mujahada pour expliquer c'est quoi le mujahada. Le sacrifice, l'effort, c'est lorsqu'on prend un papier, par exemple, un morceau de papier, et on tourne le papier dans un sens. On plie le papier dans un sens. Et pour ramener donc ce papier pour aplatir à nouveau ce papier, eh bien, il ne suffit pas de tout simplement d'aplanir le papier, mais il faut le tourner carrément dans le sens opposé. Ensuite, le papier va prendre sa forme initiale. Donc, de la même façon, on s'abstient totalement de se mettre en colère pour qu'on puisse, dans une étape postérieure, et bien ensuite, arriver à bien juger qu'est-ce qui est possible comme colère. Et qu'est-ce qui n'est pas possible comme colère? Donc le premier point, c'est le plus important, c'est de comprendre que autant que possible, on doit pardonner. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran, wal kazimin al ghayz wal afina anin nas, ceux qui pardonnent aux gens. Le deuxième point, c'est que lorsque on est dans des situations où la colère est légitime, et mubah, ou bien même nécessaire, dans ces situations, il est très important que notre réponse soit proportionnée. Que la réponse ne soit pas disproportionnée, mais qu'elle soit proportionnée, qu'elle soit mesurée. Qu'il n'y ait pas de débordement, d'excès dans notre réponse. Ça veut dire que lorsqu'on prend le badla, lorsque une personne nous agresse et que dans un élan de colère, on se défend, ou bien lorsqu'on veut éduquer quelqu'un, etc., ou bien pour protéger le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, à ce moment-là, si on exprime une certaine colère, eh bien, cette colère doit être mesurée, proportionnée. Il y a certains types de colère également où les savants disent l'expression de la colère est même un ibadat. Par exemple, si quelqu'un se trouve devant dans une situation où quelqu'un est en train d'insulter Na'ouzou billah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et que si on reste là sans réagir, indifférent, eh bien c'est que vraiment il y a un problème avec notre iman. Dans ce genre de situation, si quelqu'un entend des insultes à propos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et que dans son cœur il n'y a pas cette colère qui se crée, eh bien c'est le iman de la personne même qui doit être analysé, qui doit être sondé. Il y a certainement un problème quelque part. Donc réagir devant les insultes vis-à-vis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec une certaine colère, eh bien ça c'est un ibadat. Mufti Taqi Ousmane rahmatullah amdamat barakatuhum, il le précise dans ses écrits que ça c'est considéré comme un ibadat. Donc on a des colères, des types de colères qui sont interdites. On a des types de colères qui sont nécessaires et on a des types de colères qui sont wajib, obligatoires également. Mais dans toutes ces situations, le badla, c'est-à-dire la contrepartie que l'on donne, eh bien, doit être toujours sans débordement. Il ne doit pas y avoir de surenchère. Une fois, Mawlana Thanwi, rahmatullah alayh, rapporte un incident dans un de ses kitabs, Arwah et Thalatha. Il écrit l'histoire suivante, il dit qu'une personne est venue voir un cheikh. Et la personne, le frère, il dit au cheikh, il dit, j'ai entendu que les bouzrouks, comme on appelle les mashaïrs, sont de différentes auras, caractères. Ils ont différentes personnalités. Et j'aimerais voir ces différentes personnalités des mashaïrs. Alors le cheikh lui dit, à quoi ça te sert de savoir cela? Laisse tomber. Tu n'as pas, c'est pas vraiment nécessaire pour toi de connaître les différents caractères des mashaïrs. Mais la personne insiste. Le disciple insiste. Il veut absolument savoir c'est quoi les différents caractères, les différents misages des mashaïrs. Alors le cheikh lui dit, tu vas aller à Delhi, il y a un endroit qui est connu, qui s'appelle Kutub. Tu vas aller devant la tombe de Kutub. Et près de cet endroit, il y a une masjid. Il y a une petite mosquée. Et tu vas entrer dans la masjid et tu vas voir qu'il y a trois personnes qui sont en train de s'asseoir et de faire le zikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas te rapprocher de ces trois personnes et tu vas leur frapper chacun un coup de poing dans la hanche. Et tu examines, tu observes quelle sera la réaction de chaque personne. Et tu viens me faire le rapport. Alors la personne est partie, elle rentre dans la masjid, et effectivement il y avait trois personnes qui étaient assises en train de faire le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne à chaque personne un coup de poing dans la hanche. Lorsqu'il donne à la première personne un coup de poing, la personne ne réagit pas. La personne ne se retourne même pas pour savoir qui l'a frappé, pourquoi on l'a frappé. C'est comme si de rien n'était. Ensuite, lorsqu'elle donne un coup de poing à la deuxième personne qui était assise, cette deuxième personne se retourne et lui donne un coup de poing de façon identique. Et ensuite, lorsqu'elle se rapproche de la troisième personne, le frère donne un coup de poing dans la hanche de la troisième personne. La troisième personne se retourne et prend la main du frère qui l'a agressé et il lui caresse la main et lui dit, j'espère que tu t'es pas fait mal. Tu t'es pas fait mal à la main. Rien n'est arrivé. Avec douceur, avec compassion. Donc trois réactions totalement différentes. Le frère retourne auprès du cheikh et le cheikh lui demande: Est-ce que tu as trouvé ces trois personnes? Il dit oui. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé, un coup de poing à chacun? Il dit oui. Il dit: Comment a réagi la première personne? Alors il dit: Je lui ai donné un coup de poing, mais il n'a rien fait comme réaction. Il n'a même pas bougé, il ne s'est même pas retourné, il n'a même pas regardé. C'est comme si que rien ne s'est passé. Alors le cheikh lui dit, il lui explique. Il dit que cette personne, pourquoi elle a réagi ainsi? Il dit parce que elle réfléchissait. En ayant eu ce coup de poing, immédiatement, cette personne a pensé que on m'a donné un coup de poing. Si je vais me retourner pour savoir qui l'a fait, c'est déjà trop tard, le coup de poing est déjà parti. Et si je vais retourner à la personne son coup de poing, je vais lui frapper également. Je vais également lui causer du taklif, du tort. Quoi qu'il en soit, si je vais prendre mon badla, il y aura un taklif pour la personne. Et ça va servir à rien également. Alors pourquoi vais-je gaspiller mon temps à chercher à résoudre cet incident qui m'a frappé, pourquoi m'a frappé? Le temps que je vais passer à régler cette affaire, eh bien, j'aurai moins à gagner que de continuer à faire mon zikr et à gagner plus de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça ne sert à rien pour moi de toute façon de prendre revanche. J'ai plus à gagner à ignorer la personne qui m'a frappé plutôt que de chercher à régler cette affaire. Et c'est pour cela donc que la personne n'a donné aucun tawadjou, aucune attention à ce qui s'est passé. Ensuite, il dit, que s'est-il passé à propos de la deuxième personne? Le frère dit, lorsque j'ai frappé la deuxième personne, eh bien, cette personne s'est retournée et elle m'a frappé de façon identique. Alors le cheikh lui explique, il dit, cette personne a pris sa revanche. Mais est-ce que lorsqu'elle t'a frappé, est-ce que la frappe était plus forte ou moins forte que celle que tu avais faite? Alors le frère répond, il dit non, il m'a frappé avec la même intensité avec laquelle je l'avais frappé. Alors le cheikh lui dit, eh bien ce bouzrouk, ce wali, il a tout simplement mis en application le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que si vous prenez votre badla, vous prenez votre réparation, si vous ripostez, alors ripostez de la même façon, avec la même intensité avec laquelle on vous a attaqué, on vous a causé du tort. Et donc, c'est pour cela que cette personne a réagi de cette façon. Elle n'a pas exagéré, fait d'excès dans sa réponse, et donc elle n'a pas commis aucune, elle n'a commis aucune faute. Quant à la troisième personne, eh bien, c'est la personne, voilà, afina anin nas, celui qui pardonne aux gens. Et donc, cet incident de que mon Atanu rahmatullah alayh nous rapporte nous montre que lorsque on prend on va dire, sa revanche, eh bien, il est très important de ne pas faire d'excès. Si on va faire des excès, eh bien, la situation va s'inverser. C'est-à-dire que dans un état initial, on nous avait causé du tort. On nous avait causé du tort, on nous avait frappé. On a fait zulam sur nous. Mais si on répond de façon disproportionnée, c'est nous qui devenons zalim, qui abusent. Et c'est nous qui sommes maintenant redevables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est nous qui devons rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants nous disent également par rapport à cet incident ou de façon générale, que lorsqu'on parle avec des waliyullah, Allah, des saints d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est très important également de mesurer nos paroles, de ne pas être offensantes, parce qu'on ne sait pas quel est le degré, quel est l'état de la personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils expliquent, ils disent que cette deuxième personne-là qui avait rendu l'appareil, qui avait rendu le coup de poing, eh bien, il y a une plus grande sagesse dans sa réaction. La sagesse, c'est quoi? C'est que si cette personne, qui est certainement un waliullah, aurait fait sabar, aurait enduré patience et n'aurait pas répondu à l'agression, à l'abus qu'elle a subi, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala aurait envoyé son azab. Et beaucoup d'exemples sont parfois donnés par nos mashayikh que lorsqu'on cause du tort à un saint d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors parfois ce saint, pour éviter que la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala tombe sur l'agresseur, eh bien lui-même il prend, on va dire, sa revanche de façon tout à fait identique, proportionnée à l'aïn ou bil'aïn, œil pour œil, dent pour dent, afin que le badla soit pris, la réparation soit faite, et que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, lui-même ne fasse pas de son propre côté sa justice. Parce que celui qui agresse un saint d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est comme si qu'il a déclaré la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala. Man azali waliyan, faqad azantuhu bil harb. Si le waliullah, le saint d'Allah ne prend pas, eh bien, réparation, ce sera Allah subhanahu wa ta'ala qui le fera. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il le fait, eh bien, c'est très difficile. Donc il y a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Man azali waliyan, faqad azantuhu bil harb. Que celui qui cause du tort à un de mes pieux serviteurs, eh bien, je lui ai déclaré la guerre. Et donc le deuxième saint, la deuxième personne avait rendu le coup de poing pour que l'affaire soit conclue, soit réglée, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ait pas à intervenir pour régler cette affaire entre ces deux personnes. Et pour préserver l'agresseur du azab, de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'était dans l'intérêt même de l'agresseur pour être, on va dire, c'est une sorte de bienfaisance même vis-à-vis de l'agresseur que cette deuxième personne a réglé, eh bien, cette agression en répondant de la même façon. Alors, concernant ce hadith, Man azali waliyan faqad azantuhu bil harb, c'est-à-dire celui qui cause du tort à un des pieux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a déclaré la guerre à Allah. Allah dit en ce sens qu'il m'a déclaré la guerre, je lui déclare la guerre. C'est un hadith de Bukhari Sharif. Il est mentionné dans le Bukhari, le Sahih Bukhari, ce hadith. Et c'est un des hadiths, voire même le hadith qui a reçu le plus de critiques, de commentaires concernant son authenticité. Mufti Taqi, rahimahullah, il dit que beaucoup de gens pensent que ce hadith est une erreur de l'imam Bukhari, parce que ce hadith a une authenticité qui est très très faible. Certains même l'ont qualifié de mauzour, de fabriqué. Mais Mufti Taqi, Sahab Damad Barakatuhum, il dit qu'il n'en est pas ainsi. Car ce hadith contient également d'autres soutiens, il y a d'autres indications qui montre que ce hadith est tout à fait correct. Man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Alors il y a peut-être une objection qui est soulevée, c'est que ce wali, lui, il a montré, on va dire, plus de shafqat dans sa réponse, plus de douceur, on va dire, dans sa réponse. Parce que si on dit que le azab d'Allah subhanahu wa ta'ala descend et qui est beaucoup plus sévère, alors est-ce que cela veut dire que Allah a moins de shafqat, de compassion que cet humain? Eh bien, en réponse à cette objection, les savants nous disent, les mashayikh nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rahim, il est Rahman, il est très miséricordieux. Mais pour comprendre cela, on prend l'exemple d'une lionne. Si quelqu'un agresse la lionne, blesse la lionne peut pardonner. Mais si quelqu'un agresse le bébé de la lionne, le petit lionceau, là la lionne ne pardonnera jamais. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a parmi ses serviteurs, ces gens de serviteurs qui sont très très aimés d'Allah, les waliyullah, très proches d'Allah. Et toucher à ses proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça Allah ne le tolère pas. Et lorsque un de ses pieux serviteurs est agressé, Allah subhanahu wa ta'ala est très mécontent et fait descendre son azab. Donc c'est pour ça que les mashaykh nous disent que on ne connaît pas qui est waliyullah. On ne sait pas qui est proche d'Allah. Et que si jamais par notre colère, on a agressé quelqu'un, et que cette personne est un proche d'Allah, et qu'on a porté atteinte à un ami d'Allah, c'est comme si on a déclaré la guerre à Allah, quelle sera notre situation, quel sera notre état, qu'arrivera-t-il de nous? C'est pour cela que lorsqu'on parle avec des gens, les mashaïr, ou des gens qui sont pieux, etc., on doit avoir beaucoup plus de précautions, de ne pas offenser par nos paroles, de ne pas dire des paroles déplacées, de ne pas vexer la personne, de faire très attention. Surtout lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est dans l'émotion, etc., et bien de contrôler ses paroles, de contrôler ses actions. Donc en résumé, il y a deux choses à retenir, c'est que la meilleure des choses dans les situations de colère, quelles que soient ces situations de colère, c'est de pardonner. Le afina anil nas, faire maf. Et la deuxième chose, que si on est amené à exprimer sa colère pour une raison justifiée, eh bien, cela doit se faire de façon tout à fait proportionnée, mesurée, sans abuser. Comme on a reçu de façon identique, eh bien, on doit prendre le badla, on doit riposter. Qu'Allah donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Inch'Allah, on continuera par la suite avec les différents moyens pour contrôler sa colère, les différentes actions pratiques à faire pour contrôler sa colère. Qu'Allah donne le tawfiq de les aborder prochainement, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.